Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on parle de la chevelure, cela peut évoquer en premier lieu la coiffure, l'allure, avant de penser aux questions de santé. Si les différents problèmes associés aux cheveux restent pour l'essentiel bénins, ils peuvent se révéler gênants, perturbants au quotidien et même parfois source de complexes, de malaise. Et pourtant, de nombreux problèmes de cheveux sont directement liés à des pratiques censées justement améliorer l'apparence, embellir en fonction bien sûr des modes, des tendances, des frisages, tressage. Ces gestes a priori anodins peuvent se révéler très néfastes pour la santé des cheveux lorsqu'une coiffure extrêmement serrée va finir par arracher au sens propre des mèches par poignée, lorsque sous le tressage va se développer une maladie du cuir chevelu, lorsque le lissage va fragiliser le cheveu et le rendre extrêmement cassant. Si protéger sa santé constitue une préoccupation largement partagée, attention à ne pas la reléguer au second plan pour des soucis esthétiques. Ne pas oublier les bienfaits du naturel, adopter le plus possible une démarche bienveillante avec ses cheveux, en évitant les agressions, en nous débarrassant des produits miracle aux origines incertaines. Et au cours de cette émission, nous répondrons aux questions très nombreuses sur la santé de vos cheveux. Vous avez posé ces questions sur le répondeur de Priorité Santé. Beaucoup de questions aussi, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission. Pour y répondre aujourd'hui avec nous en direct et en ligne, le docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au Centre de santé Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Burkina Faso le professeur Adama Traoré, chef du service dermatologie et vénérologie du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Et puis en fin d'émission, on retrouvera notre séance d'activité physique avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo et coach de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et bien sûr, comme d'habitude, émission d'abord pour répondre aux questions des auditeurs, mais aussi pour faire passer des messages simples, on va dire des messages de bon sens. Docteur Philippe Assouli, premier de ses conseils de bon sens, c'est arrêter de tirer sur vos cheveux.
Oui, le problème des cheveux, c'est que c'est une structure très fragile et notamment les cheveux sont accrochés dans le cuir chevelu, mais lorsqu'ils sont tirés, il y a une espèce d'inflammation qui se développe autour. Donc il peut y avoir, si la traction est brutale, une casse des cheveux, un arrachage, mais la traction chronique, le fait de tirer régulièrement par le biais de tresses notamment, va créer une inflammation autour des follicules pileux qui finissent par lâcher et par donner naissance à des cheveux qui deviennent très maigrichons, puis l'absence totale de cheveux.
Ça veut dire que ce phénomène, on le rencontre en particulier chez les femmes qui ont la chevelure tressée ou très coiffée, très tirée?
Oui, ça peut être valable chez à peu près toutes les peaux. C'est-à-dire si une japonaise avec des cheveux très raides tire sur ses cheveux, elle aura également une alopécie, donc un manque de cheveux par traction. Mais le risque est bien plus important sur des cheveux crépus ou frisés, dans lesquels il va y avoir beaucoup plus facilement un lâchage des cheveux et une fragilisation avec une disparition des follicules pileux. Et comme la mode a été pendant un certain nombre d'années de tirer ses cheveux d'avoir un aspect tout à fait lisse et qui puisse plaire à, comment dire, une volonté afro-américaine imposée, de fait, ces coiffures ont déclenché des alopécies qui maintenant sont irréversibles. Donc il faut faire attention à ce que pour les jeunes filles et pour les enfants, on ne fasse pas de traction qui puisse après avoir cet effet irréversible et qui est assez navrant parce que souvent ça débouche sur une perruque à la quarantaine, on va dire.
Malgré tout, quand on est attaché au tressage, hein, ça peut arriver dans certaines régions du monde, même quand on n'est pas sous l'emprise d'un modèle culturel dominant, on va dire, du cheveu lisse. Docteur Philippe Assouli, est-ce qu'il y a des méthodes, je sais bien que vous n'êtes pas coiffeur, mais quand même, pour justement faire des coiffures, on va dire, plus domptées, mais qui sont moins agressives?
Alors, plus la tresse va être tendue et également s'il y a des rajouts, plus on va tendre la base et plus ça va déclencher. Donc, il faut faire appel à des gens qui sont des professionnels, qui ont l'habitude de faire et qui ne tirent pas trop. Si on fait ça par la voisine ou autre qui n'a pas du tout l'habitude et qui va tirer, et s'il y a une douleur qui se déclenche à ce moment-là ou dans les jours qui viennent, c'est que véritablement, on n'est pas bon pour la chevelure.
Alors bien sûr, il y a différentes natures de cheveux, différents types. Docteur Philippe Assouli, est-ce que certains d'entre eux, justement, ont une implantation moins profonde ou tout simplement on en a moins? Est-ce que justement cela favorise ce qu'on appelle cette fameuse alopécie, ce risque de calvitie?
On part tous avec un départ qui va être un certain nombre de cheveux au centimètre carré. On va tous partir aussi avec un point de départ qui va être une forme, une texture, une épaisseur du cheveu. Et donc, on n'a pas le même patrimoine de départ. Si on a une perte d'une proportion, mettons, de 15 ou 20% de cheveux, chez certains, ça sera absolument invisible. Et pour d'autres, ça va être tout de suite très, très visible. Si s'ajoute à cela des traumatismes locaux, donc le fait de frotter, de gratter, on va casser les cheveux et donc ça va apparaître encore plus. S'il y a par-dessus une alopécie androgénique, une chute de cheveux d'origine hormonale sur le dessus du crâne, ça va apparaître également davantage. Donc beaucoup de facteurs vont rentrer en ligne de compte, s'il y a une carence en fer et autres, mais la base c'est que plus le cheveu a des ondulations serrées, plus on a des risques que des petits traumatismes déclenchent une alopécie rapidement.
Alors tout de suite sur RFI, on va entrer dans le vif du sujet avec les nombreuses questions de nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Alors on va l'entendre, hein, justement beaucoup de ces questions concernent la perte des cheveux. Mais pour commencer, autre préoccupation là, bien différente, il s'agit de la couleur avec Alex. Alex qui nous écoute au Sénégal.
Bonjour Caroline, bonjour à votre invité. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans. Je suis au Sénégal, à Hambourg, à 100 km de la capitale Dakar. J'ai quelques préoccupations par rapport à mes chevelures. En fait, ça fait un petit moment, je remarque que j'ai des cheveux blancs. Mais du coup, ça m'embête un peu, voilà, ça me dérange un peu. Et ma question est de savoir, est-ce que c'est normal à cet âge? Et puis, si c'est normal ou pas, et quels sont les remèdes pour s'en débarrasser? Merci.
Docteur Philippe Assouli, alors cette question, les cheveux blancs à 35 ans, pourquoi certaines personnes sont concernées beaucoup plus tôt que d'autres dans la vie?
Il n'y a pas de règle absolue. On peut dire que globalement, plus il y a d'ascendance familiale de cheveux blancs précoces et plus il y a de risques pour un enfant d'avoir des cheveux blancs précoces. Si les cheveux sont épars de ci, de là et que ça augmente tranquillement, on est dans le classique. Et des fois, ça peut démarrer pendant l'enfance, vers l'âge de 10 ans ou avant. Et si ça devient par contre blanc très vite, de manière brutale, là, on se pose des questions. Mais le plus souvent, bon, si c'est progressif comme ça, c'est le déterminisme qui veut ça. Le tabac peut augmenter le risque d'avoir des cheveux blancs précoces. Les cheveux, l'ascendance, c'est-à-dire que chez un ascendant européen, on a plutôt vers le milieu de la trentaine des cheveux blancs qui démarrent, et ascendance africaine, plutôt au milieu de la quarantaine, normalement plus tardif donc sur peau noire.
Donc cette inquiétude d'Alex qui se demande, de façon très concrète, c'est son expression, comment s'en débarrasser de ses cheveux blancs?
Pas grand-chose à faire, si ce n'est de les colorer. Malheureusement, pour l'instant, pas d'autre solution. On sait qu'il y a des mélanocytes, des cellules pigmentaires qui sont présents encore, qui restent. Mais ils sont absolument en état de sommeil. Donc ils donnent des cheveux blancs puisqu'ils ne donnent pas la coloration aux cheveux. On sait que dans certains traitements très particuliers de certains cancers, des traitements très lourds, il y a des pigments qui se remettent en route et donc il y a des cheveux qui renoircissent. Mais on est dans des méthodes qui ne sont pas des méthodes utilisables chez quelqu'un qui n'a pas de problème de santé.
Donc il faut s'en satisfaire, on peut être très très séduisant avec des cheveux blancs.
Voilà,
il y a quelques vieux beaux du cinéma qui nous diront pas le contraire. Alors autre question encore associée à la teinte des cheveux, cette fois c'est un auditeur en ligne du Tchad, c'est Issaka.
Bonjour Caroline, bonjour à l'invité du jour et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je m'appelle Issaka Maïna, j'ai 26 ans, je vous appelle depuis N'Djamena Tchad. Mes questions sont les suivantes. La première question, j'aimerais savoir pourquoi le soleil éclaircit-il nos cheveux? La deuxième question, pourquoi la crâne des chauves est-il brillant? La troisième question, La coloration peut-elle causer ou aggraver la chute du cheveu? Et pour finir, est-ce que la décoloration fragilise-t-elle les cheveux? Merci.
Beaucoup d'interrogations, hein, docteur Philippe Assouli. On va les reprendre, c'est entre dermato et sciences naturelles. Des questions simples mais pertinentes d'abord. L'éclaircissement des cheveux à cause du soleil, pourquoi?
Le cheveu, c'est une structure morte, c'est-à-dire que ça se fabrique dans la peau. Il y a le bulbe, la racine, et puis ensuite, ça fabrique quelque chose qui ne va pas du tout se modifier par la suite. Donc tout ce qui va se passer sur le cheveu à l'extérieur va l'altérer, le modifier. Si le cheveu est desséché par le soleil, s'il est abîmé par des produits, il va garder tout ce qui va être abîmé. Donc la mélanine qui est fabriquée par les mélanocytes, les cellules pigmentaires qui sont dans le bulbe, cette mélanine va être altérée par la lumière, par le soleil. Également, s'il y a des choses qui dessèchent le cheveu à l'extérieur, comme le soleil simplement, la structure extérieure, cette espèce de toit qui est autour de la tige pilaire, c'est comme des tuiles qui sont posées, vont être abîmées. Et s'il y a moins de brillance, si ces tuiles sont lésées, à ce moment-là, le cheveu va paraître beaucoup plus gris ou beaucoup plus blanchâtre qu'il n'est. Et quand il est mouillé, il va paraître plus sombre. Donc c'est le mélange à la fois de la modification de la structure du cheveu qui est à l'extérieur du cheveu, qui le protège, et puis la disparition de cette mélanine qui font que le cheveu va donner cet aspect un peu plus blanc.
Alors deuxième question, dit Sarah, donc il y avait au moins trois questions complètement différentes. Ça peut prêter à sourire, mais une question est une question. Pourquoi les personnes chauves ont un crâne qui brille ?
Alors, plus il y a de disparition des cheveux, moins il va y avoir d'orifices pilaires. Et les orifices par où sortent les cheveux. Et le sébum qui est toujours fabriqué, ce sébum qui nous protège, qui permet d'avoir des cheveux brillants, de protéger notre peau également, lui va être sécrété, il va rester à la surface d'un crâne sans cheveux. Donc ça fait un aspect brillant. Puis il y a la sueur qui se mélange à ça. Et donc tout ça donne un aspect qui brille, la disparition des follicules pileux, le sébum et la sueur qui donnent cet aspect particulièrement brillant.
Donc il y avait vraiment une réponse scientifique à cette question. Et l'impact de la coloration, décoloration sur la santé des cheveux. Parce que tout à l'heure, Alex nous demandait avec ses cheveux blancs, qu'est-ce que je peux faire pour avoir justement, pour ne plus avoir ses cheveux blancs. On peut recourir à la coloration, mais est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a différents produits qui permettent d'avoir justement une qualité plus ou moins bonne du cheveu après la coloration?
La coloration et la décoloration abîment éventuellement, en étant répété, la tige pilaire, toujours cette structure morte. Donc c'est pas gênant, ça ne déclenchera jamais de chute de cheveux. Mm-hmm. Ça peut les rendre un peu plus cassants, un peu abîmés. C'est davantage valable pour des gens qui ont des cheveux longs, parce qu'ils auront subi beaucoup plus de traumatismes au cours de leur vie de cheveux. Et la décoloration est ce qui abîme le plus la tige pilaire. Alors, plus que la coloration elle-même.
Alors, autre question, et je sais que cette question, elle concerne pas mal de nos auditeurs. Hein. C'est au Sénégal, à Toubacounda, question Facebook de Mustapha qui demande pourquoi après avoir rasé leurs cheveux, parce que c'est aussi une pratique assez courante, eh bien certains hommes ont-ils des boutons sur le cuir chevelu avant que les cheveux ne repoussent, docteur Assouli?
Alors, il y a une prédisposition génétique qui ne touche pas que les peaux noires, mais qui peut toucher les peaux blanches, mais davantage lorsque le cheveu est un peu frisé ou crépu. Et on appelle ça la folliculite fibrosante. C'est l'équivalent de ce qui se passe sur la barbe également, des hommes qui rasent et qui vont se retrouver avec des boutons. Et dès qu'ils rasent, les boutons apparaissent, puis s'enflamment, et donc comme des boutons d'acné. Il y a la même chose souvent au niveau de la nuque, chez l'homme, à l'occasion d'un rasage chez le coiffeur, un premier petit bouton se déclenche, puis après il y en a d'autres, etc. Et comme sur peau noire, là encore, il y a une prédisposition à ce que l'on appelle les kéloïdes, les cicatrices en relief, on peut avoir l'association de cette folliculite fibrosante, ces petits boutons isolés qui s'enflamment, puis qui se calme, puis qui se renflamme, et puis parfois l'apparition de magma, de boutons regroupés et qui s'étendent de même et qui forment cette kéloïde. Là donc il y a des traitements qui existent, mais il faut avant toute chose éviter les traumatismes locaux, c'est-à-dire le rasage ou la tondeuse à blanc, c'est-à-dire il faut toujours mettre un sabot sur la tondeuse et il faut prévenir le coiffeur de ne jamais raser cette zone.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un petit espace pour éviter justement l'agression de la peau au niveau du bulbe capillaire.
Voilà, et il faut éviter que le cheveu ne repique dans la peau ou lorsqu'il est coupé au ras, il va avoir tendance à agresser en sortant la peau qui est au niveau de l'émergence de cette tige pilaire. Donc, il faut qu'il y ait un tout petit peu de cheveux qui débordent pour ne pas agresser la peau.
Et vous disiez, il y a des traitements, on ne va pas les citer à l'antenne parce que chaque traitement est propre à chaque problème. Justement, il faut peut-être éviter par contre certains traitements en automédication quand on est tenté justement de ne pas passer par la case médecin ou la case dermatologue quand on a ce genre de problème.
Oui, alors il y a tout un tas de trucs toxiques et caustiques localement qui vont blanchir la peau, qui vont l'abîmer, etc. et qui n'auront aucun effet thérapeutique. Donc on peut simplement mettre un antiseptique dans un premier temps, éviter de raser la zone et puis attendre que ça évolue. Et après, si on a l'occasion de voir un dermatologue, à ce moment-là, il juge de ce qui peut être fait, et notamment des injections dans la peau de cortisone à toute petite dose. Mais vraiment, c'est au niveau des points d'émergence pour que ces boutons disparaissent.
Alors, boutons sur le cuir chevelu, perte des cheveux, autre préoccupation des auditeurs de Priorité Santé, une question qui est posée par Cécile. Elle nous écoute à Yaoundé au Cameroun.
Bonjour Caroline, bonjour docteur. Je me nomme Cécile et je vis à Yaoundé, j'ai 29 ans. Et je voudrais savoir s'il y a des produits spécifiques pour les cheveux afin d'éviter la perte des cheveux. J'ai arrêté le défrisage et j'ai les cheveux naturels courts. Mais quand je peigne, ils se coupent. Donc, je voulais savoir s'il y a une solution et des produits adaptés pour ce type de problème.
Docteur Philippe Assouli, ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission sur les cheveux au naturel, cheveux cassants une fois défrisés. C'est quelque chose que vous constatez également en consultation ?
Ouais, et puis il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que la chevelure soit renouvelée. Les cheveux sur peau noire se renouvellent moins rapidement que sur peau blanche. Enfin, la vitesse de croissance du cheveu est plus lente. Ce qui a été abîmé reste abîmé. Ce qui fait que, avant de récupérer des cheveux qui vont mesurer, mettons, 20 cm, il faudra 2 ans. C'est long. Entre-temps, bah, il y a plein de casses qui vont apparaître. Et tout ce qui va traumatiser, c'est-à-dire si on a cessé des défrisages, mais que on a par exemple eu un frottement, que ce soit dans un foulard, que ce soit sur l'oreiller ou sur une perruque, tous ces frottements vont également entraîner une casse des cheveux. Et donc, il y a des zones qui sont prêtes à se casser, puis des cheveux qui se cassent au moment où on va se coiffer, par exemple. Mais ça n'est que la constatation de ce qui est déjà abîmé. Donc, faut effectivement les protéger. Et donc, il y a une grande différence entre la chute et donc plein de causes de chute de cheveux, puisqu'elle parle à la fois de chute et de cheveux qui se coupent, qui se cassent. Et cette casse, la casse est liée à des facteurs externes, et la chute de cheveux peut être liée à tout un tas de facteurs internes. Après, il faut voir s'il y a une raison particulière, et là, c'est une affaire médicale, on va dire.
Alors, problème de chute de cheveux, cette fois, qui a poussé cette auditrice, Judith, à nous joindre, on l'écoute.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tout le monde sur le plateau et à ton invité. Je m'appelle Judith, j'ai 35 ans, je suis en RDC, en République démocratique du Congo. Alors, ma préoccupation est la suivante. Ça fait déjà au moins 10 ans, j'avais beaucoup de cheveux. Des cheveux crépus, bien sûr, mais mes cheveux ont commencé à devenir blancs petit à petit. Ça devenait blanc et puis la qualité de mes cheveux, j'ai perdu vraiment la qualité de mes cheveux. Donc, avant, j'avais beaucoup de cheveux, mais maintenant, j'en ai plus beaucoup. Et aussi, je remarque que dans les endroits où ça pousse des cheveux blancs, c'est là où les cheveux sont en train de chuter. Donc, même quand je peigne mes cheveux, j'en perds beaucoup. Même quand je me lave la tête, je perds beaucoup de cheveux. Alors, je voulais savoir, est-ce que il y a un traitement pour ça? Mais aussi, je me demandais, la cause, c'est peut-être pas le fait que je suis technicienne de radiologie, je suis tout le temps en contact avec les rayons X. Est-ce que cela aussi peut amener à avoir beaucoup de cheveux blancs sur la tête et puis la rechute des cheveux?
Docteur Philippe Assouli, question bien précise. Cette auditrice qui constate qu'elle a perdu pas mal de cheveux, qu'ils sont devenus blancs, Judith. Et puis, question sur le lien entre sa profession, elle travaille dans un service de radiologie, et ce phénomène. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou non?
C'est difficile de dire. A priori, on ne peut pas considérer que la chute de cheveux soit liée aux rayons qui vont venir directement par-dessus. On a des chutes de cheveux liées aux rayons. Lorsqu'il y a quelque chose de brutal, il y a une chute brutale des cheveux. Lorsqu'il y a quelque chose de chronique, on peut avoir des cheveux qui deviennent un peu abîmés ou autres. Mais là, comme ça, il faudrait juger sur place et voir ce qui se passe. Mais l'association blanchiment n'a pas forcément de relation de causalité avec la chute elle-même. Donc beaucoup de choses peuvent déclencher. Il faut vérifier quand même la thyroïde. La thyroïde peut être altérée par les rayons X et on peut avoir dans ce cas-là des cheveux qui blanchissent prématurément et qui sont plus faibles.
Donc ça, la réponse à Judith, c'est justement aller consulter pour poser directement à un médecin cette question très intéressante.
Absolument, oui.
Alors, autre auditrice qui subit les conséquences là d'un mode de coiffage, hein, le défrisage, c'est Rachel. Elle nous a laissé ce message sur le répondeur de Priorité Santé. Elle écoute RFI dans la capitale de la République démocratique du Congo.
Bonjour Caroline, bonjour à l'invité. Je suis Rachel, 32 ans, depuis la ville de Kinshasa. Au fait, mon problème est que ça remonte de presque 10 ans que j'ai commencé à perdre mes cheveux du vent. C'était petit à petit, ça progressait, voilà. Et à présent, je n'ai presque plus rien devant ici. C'est une calvitie grave. Alors, pour en remédier, je mettais des produits que j'achetais dans des pharmacies aussi, dans des boutiques, dans des marchés, des produits contre la calvitie. Mais jusqu'à là, ça n'a rien produit de positif. Alors, je suis restée comme ça, figée à mes perruques. Je sors tous les jours avec des perruques, mais je rêve bien retrouver mes cheveux d'antan, parce que derrière, j'ai mes cheveux, mais juste là devant, je manque de cheveux. Ça fait un peu honte de sortir avec. Alors, je voulais poser la question s'il y a possibilité ou s'il y a quelque chose à faire pour recouvrer mes cheveux d'antan.
Alors, docteur Assouli, faire repousser des cheveux qu'on a perdus après des pratiques comme des défrisages répétés, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette auditrice, Rachel ?
Assez difficile parce que lorsqu'il y a eu un traumatisme répété sur la zone antérieure et qui déclenche ce que l'on appelle une alopécie marginale, donc c'est ce recul de la ligne d'implantation qui est fréquent sur peau d'ascendance africaine, par le fait qu'il y a des défrisages qui ont abîmé, par le fait qu'il y a eu des tresses, des rajouts, et donc on a un recul progressif avec un maintien éventuellement d'une espèce de petite frange de cheveux qui sont plus petits, qui ne peuvent pas être accrochés par les tresses. Et cette alopécie, c'est une alopécie que l'on dit cicatricielle, c'est-à-dire qu'il y a une disparition des follicules pileux. Si les follicules pileux restent, ils sont très maigrichons. Le cheveu que l'on voit à l'extérieur correspond à la taille et à la forme du bulbe. Si le bulbe est abîmé, si on a donc un tout petit bulbe, ben on aura des tout petits cheveux. Ces cheveux, si on...
qui entraîne également donc des pertes de cheveux de manière secondaire.
Alors du côté de la malnutrition, fragilité de ses cheveux, on a un auditeur, hein, Pau Hôpital, qui demande si justement quand on est enfant, malnutrition au cours de l'enfance, ça peut avoir des conséquences sur la santé des cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Traoré ?
C'est affirmatif. Affirmatif, ouais. Parce que quand on enseigne aux étudiants comment faire le diagnostic de malnutrition, l'une des choses que on leur dit, c'est de regarder donc quelle est la couleur des cheveux de l'enfant. Est-ce que les cheveux deviennent très fins? Est-ce que les cheveux s'arrachent facilement? Est-ce que globalement la touffe est en train de partir? Et donc la malnutrition, la mauvaise nutrition sont des causes de perte de chevelure.
Donc il faut bien sûr le souligner dans certains contextes, dans certains lieux ou certaines régions. Question d'un auditeur, si vous le voulez bien, professeur Traoré, on va vous la soumettre tout de suite. Question qui concerne les cheveux de sa petite-fille, c'est Bartel du Congo-Brazzaville qui a laissé ce message sur le répondeur de notre émission.
Bonjour Caroline, bonjour docteur, je suis monsieur Bartel. Ce qui me fait intervenir sur cette émission, c'est que je voudrais savoir si le fait de faire garder des cheveux à un enfant depuis la naissance jusqu'à son adolescence peut poser préjudice à sa santé, en fait. Parce que j'ai eu une période où ma fille de 9 ans avait beaucoup de fièvre, où elle n'était pas vraiment en très bonne santé. Après un mois, deux mois, ça revenait, les fièvres revenaient. Alors, les parents de ma femme lui ont fait savoir que cela était dû au fait qu'elle n'avait jamais fait couper les cheveux à son enfant. Moi, je lui ai dit que c'était pas possible. Et voilà pourquoi je me suis adressé à Priorité Santé. Donc, en bref, c'est de savoir est-ce que le fait de ne jamais avoir coupé les cheveux à l'enfant pouvait nuire à sa santé. Merci.
Professeur Traoré, croyant sur le lien entre cheveux et santé, est-ce que vous rencontrez ce type de questions sur une dimension quasi rituelle? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet auditeur?
Alors, je voudrais d'abord dire que c'est une question qui revient régulièrement. Beaucoup de gens vous disent les cheveux, il faut les couper de temps en temps, il faut les coiffer. Il faut les entretenir, sinon il y a un retentissement sur la santé. C'est vrai, je voudrais dire que laisser les cheveux pousser, à condition que ça soit accompagné d'un bon entretien, cela ne pose aucun problème. Et les cheveux vont continuer de pousser. Comme vous le savez, une chevelure a une durée de vie de 3 à 4. Un cheveu a une durée de vie de 3 à 4 ans, voire 7 ans. Donc, à la période où le cheveu croît, le seul risque, c'est que vous allez avoir vraiment une chevelure extrêmement importante. Mais le problème, c'est que dans l'entretien de cette chevelure-là, on peut avoir quelques difficultés. Mm-hmm. Donc, pour me résumer, si on laisse pousser les cheveux, à condition qu'on assure un bon entretien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si les cheveux poussent et ça manque d'entretien, véritablement, on peut avoir donc des zones qui se mettent à gratter, une infection qui se greffe, et c'est peut-être en ce moment que on fait le lien entre le fait de laisser les cheveux et quelques pathologies ou une fièvre que l'on peut avoir.
Un dernier message, professeur Traoré, à faire passer aux auditeurs de Priorité Santé, justement, pour garder des cheveux en bonne santé.
Alors, j'ai deux ou trois messages. Le premier, c'est que on revient au naturel. Les cheveux, la santé des cheveux reflète véritablement la santé de l'individu. Donc, premièrement, il faut s'alimenter correctement. Et je pense que ça, c'est le premier message. Parce que ce que vous mangez va retentir sur la qualité de vos cheveux. Et retenir que chaque fois qu'il y a une petite anomalie au niveau des cheveux, dès que ça commence à tomber au-delà des 80 cheveux environ par jour, dès que ça commence à gratter le cuir chevelu, dès que ça devient fourchu, ça veut dire que le cheveu est malade, il est temps d'aller consulter pour que non seulement on établisse l'étiologie ou la cause qui a provoqué donc ce problème de cheveux, en sachant également que les auditeurs doivent savoir qu'il y a des maladies générales qui se manifestent par des problèmes de cheveux. Voilà le message essentiel, bien manger, consulter au moindre signe, et entretenir correctement ses cheveux.
Merci infiniment pour cet éclairage, professeur Adama Traoré. Je rappelle que vous êtes chef du service de dermatovénérologie au centre hospitalier universitaire Yalgadougou et Draogou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Dernière partie de notre échange avec vous, docteur Philippe Assouli. On parle toujours de la santé des cheveux dans Priorité Santé. Un petit message pour conclure, c'est celui de Nadège. Elle nous écoute à Djamena.
Bonjour la RFI. Je m'appelle Rima Diabao Nadège. Je vous appelle de N'Djamena au Tchad. Ma question porte sur la cassure des cheveux. Beaucoup de femmes disent que lorsque nous lavons fréquemment les cheveux, ça ne pousse plus les cheveux parce qu'à force de laver, ça casse plus tôt. Alors ma question est de savoir à quelle fréquence nous devons vraiment laver les cheveux et comment laver les cheveux. C'est-à-dire la bonne manière de laver les cheveux, c'est laquelle? Avec le shampoing ou bien avec de l'eau simple? Merci.
Docteur Philippe Assouli, est-ce qu'il y a forcément une bonne manière de se laver les cheveux, comme le demande Nadège, les produits les plus simples, en tout cas des produits qu'on trouve partout dans le monde? Vous conseillez quoi, vous, quand on vient vous voir en consultation?
Il y a beaucoup de mythes et peu de règles absolues. Ça dépend évidemment de... D'abord, quand on lave les cheveux, on lave surtout le cuir chevelu. Les cheveux sont globalement peu sale, et c'est le cuir chevelu qui va être plein de sébum et qui va se salir. Et en particulier sur cheveux crépus, où il y a souvent une dermite séboréique, c'est-à-dire un état pelliculaire avec des démangeaisons. Et donc, il faut dégager ces pellicules, et si les cheveux sont tressés, nattés, ou même s'ils sont naturels, ça crée une espèce de calotte qui enferme et qui entretient cet état pelliculaire, et donc du grattage, et donc de la casse de cheveux par le biais du grattage. Donc le rythme des shampoings, il n'y a pas de règle absolue. On peut considérer qu'un shampoing hebdomadaire, dans la plupart des cas, ça peut aller. S'il y a besoin de laver plus souvent, ça pose aucun problème sur des cheveux résistants, mais dans ce cas-là, on va utiliser un shampoing assez dilué et on va surtout laver donc le cuir chevelu avec un seul passage, inutile de faire deux passages. L'eau toute seule, ça permet de coiffer les cheveux. Le fait d'être en contact avec l'eau repermet de faire de modifier la structure de la tige pilaire de manière temporaire, comme lorsqu'on transpire, les cheveux vont devenir davantage crépus éventuellement. Mais l'eau elle-même ne va pas assez laver le cuir chevelu. Après, certains ne vont pas supporter les shampoings, auront des problèmes avec, et dans ce cas-là, on va faire du co-wash ou autre, c'est-à-dire qu'on va utiliser des conditionneurs en alternance avec un shampoing, on va ralentir le rythme des shampoings en faisant du slow poo, du low poo, etc. Enfin bref, tout un tas de termes. Globalement, un à deux shampoings par semaine bien dilués, sauf si vraiment le cuir chevelu n'est pas gras. Et puis, on peut mouiller les cheveux juste pour leur donner de la forme, indépendamment de ça.
Docteur Assouli.
Et puis donc, s'il y a des pellicules, on va utiliser un antipelliculaire, bien entendu, mettons une fois par semaine en rythme de croisière.
Un shampoing traitant, dernière question sur le beurre de karité. Dans quel cas est-ce que c'est conseillé pour l'entretien des cheveux?
Comme tous les produits qui vont graisser la tige pilaire, ça permet de rendre le cheveu plus brillant, ça permet de le coiffer, ça peut le protéger à l'extérieur. On évitera d'en mettre directement sur le cuir chevelu, ça ne présente pas d'intérêt particulier, ça va augmenter le caractère gras du cuir chevelu et donc cet état pelliculaire.
Donc ça ne booste pas, parce que c'était la question d'un auditeur Amadou, ça ne booste pas en tout cas, contrairement à certaines croyances, la pousse du cheveu.
Non, on aimerait bien, mais non.
Mais non, hélas. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Merci aux auditeurs d'être toujours aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Docteur Philippe Assouli, je rappelle que vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre de santé Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Merci pour toutes ces questions et réponses bien sûr très précises. Et à présent, dans Priorité Santé, on va retrouver le docteur Jean-Marc Sen. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline, j'espère vous retrouver en forme comme d'habitude.
Et grâce à vous, on va être encore plus en forme après cette séance d'activité en temps réel. Jean-Marc, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et tous les lundis dans Priorité Santé, vous êtes là pour nous entraîner avec des exercices, des séries d'exercices. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Et peut-être d'abord, du côté du matériel, on va avoir besoin de quelque chose ou on est juste en tenue de sport avec des bonnes chaussures?
Voilà, très peu de choses en tenue de sport, des bonnes chaussures, un sol qui ne glisse pas, surtout avec un petit peu d'espace, et c'est parfait.
Alors pour le premier exercice, Dr Sen, vous nous proposez quoi?
Alors le premier exercice, ça va être un exercice cardio, qui va travailler aussi l'agilité et la coordination. Il s'appelle l'exercice du patineur. Alors l'idée, ça va être qu'on va se tenir debout, on va bien droit, on va écarter les pieds à hauteur d'épaule, et puis on va sauter sur le côté. Et quand on va sauter sur le côté avec la jambe droite, on va mettre la jambe gauche derrière et on va tourner le buste avec le bras gauche en avant. Autrement dit, comme un patineur, le bras gauche est en avant, la jambe droite est en avant, et ensuite on va faire l'inverse. On va faire un saut sur le pied gauche, le bras droit en avant et le pied droit en arrière. Voilà. Et comme ça, on va passer d'un côté à l'autre, comme un patineur.
D'accord. Alors, on a à peu près visualisé la scène. On est en position et à partir du moment où on part, eh bien, vous allez décompter pour qu'on puisse faire ces mouvements en rythme. Allez-y.
Allez. On est bien les pieds au sol et c'est parti à droite. Puis on fait un saut à gauche, le bras en avant. Puis encore, on fait un saut à droite, le bras gauche en avant. Puis un saut à gauche, puis un saut à droite, on tourne bien le buste, puis un saut à gauche, un saut à droite, et puis un saut à gauche. Voilà pour le premier groupe. Un saut à droite, puis un saut à gauche. On respire bien pendant l'exercice. Un saut à droite, le bras gauche est en avant. Un saut à gauche, le bras droit est en avant. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Voilà pour le deuxième groupe. Un saut à droite, puis un saut à gauche. On respire bien. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Un saut à droite, un saut à gauche, on tourne bien le buste. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Parfait, on a terminé la première série.
Et on reprend sa respiration. On avait bien soufflé, mais là, on fait une petite pause respiration, c'est ça?
Absolument, on peut boire un petit verre d'eau pour commencer la deuxième série.
Et on se met au repos, on se retrouve dans quelques instants. Et nous revoilà, Dr Sen, pour la deuxième série de ce premier exercice dans notre séance d'activité en temps réel dans Priorité Santé. Donc, cet exercice dit du patineur, vous nous rappelez comment on repart pour le deuxième décompte?
Eh bien, on repart debout, les deux pieds à hauteur d'épaule. On va faire des sauts à droite et à gauche. Et on pense bien à tourner le buste à chaque fois dans le sens opposé, c'est-à-dire le bras gauche est en avant quand on saute du côté droit. Hein, et inversement. Voilà. Et bien voilà, on est prêt. Et c'est parti. Un saut à droite, le bras gauche en avant. Un saut à gauche, le bras droit en avant. Un saut à droite, le bras gauche en avant. Un saut à gauche, le bras droit en avant. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Un saut à droite, on respire bien. Un saut à gauche, on continue à respirer. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Voilà pour le premier groupe. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Un saut à droite, sur le côté, un saut à gauche. Un saut à droite, on respire bien surtout. Un saut à gauche, on tourne bien le buste. Un saut à droite, on respire bien. Un saut à gauche, on tourne bien le buste. Voilà pour le deuxième groupe. Un saut à droite, puis un saut à gauche. On respire bien. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Un saut à droite, on respire et on tourne le buste. Un saut à gauche, on respire, on tourne le buste. Un saut à droite, puis un saut à gauche. Bravo tout le monde, on vient de terminer l'exercice.
On a travaillé le cardio, mais aussi la souplesse dans ces mouvements sur le côté.
Oui, la souplesse, l'agilité, la coordination entre le haut et le bas du corps. Voilà, il y a une coordination, une inversion dans le bas et haut et bas du corps. Et ça, c'est très important, notamment pour travailler la marche, la qualité de la marche.
Alors, on va faire un deuxième exercice maintenant. On va travailler sur quoi et comment est-ce qu'il s'appelle?
Alors, il va être beaucoup plus statique. On dit que c'est un exercice isométrique. C'est l'exercice de la paume contre la paume. En fait, l'idée, c'est de travailler les pectoraux et le haut du corps. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va serrer les deux mains l'une contre l'autre. Les paumes bien collées, face à face. Et ensuite, on va ramener près de notre poitrine nos deux mains. Et on va appuyer le plus fort possible. hein, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et donc, on va compter quelques secondes comme ça et on va répéter cet exercice deux fois.
Alors, ce qui est important, j'imagine aussi, c'est la respiration, parce qu'il n'est pas question de se mettre en apnée.
Absolument, il faut continuer à respirer, évidemment, pendant tout cet exercice. Mais surtout, il faut appuyer à sa force, bien sûr, mais au maximum, d'emblée, au maximum de sa force, sans faire d'à-coups, évidemment. On a déjà les paumes collées et puis on appuie très fort, très fort, très fort.
Alors, docteur Sen, on y va, vous nous donnez le rythme.
Allez, donc, on applique nos deux mains l'une contre l'autre, les paumes bien en face, on lève les coudes, on rapproche les mains de notre poitrine et top, on appuie très fort, très fort, très fort, on respire évidemment et on appuie très fort, très fort, très fort, on continue, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on appuie très fort, encore, 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 voilà pour le premier groupe. On continue pour le deuxième groupe, on ne lâche pas, on appuie très fort, très fort, très fort, on respire évidemment, on ne lâche pas, on continue, voilà pour le deuxième groupe. Et on continue pour le troisième groupe, on appuie encore très fort, très fort, très fort, très fort, on respire évidemment, on ne lâche pas, on appuie très fort, très fort, très fort. Et voilà pour le troisième groupe, bravo, bravo à tout le monde.
Bravo, et docteur Sen, là ça tire où? Ça tire aussi bien dans les épaules, dans où exactement?
Oui, ça va tirer devant la poitrine, les pectoraux, mais aussi un peu les biceps hein, qui vont travailler, et un peu les épaules. Donc en fait, ça va être les pectoraux au niveau de la poitrine, les épaules, donc les deltoïdes, et puis aussi les biceps, donc devant les bras.
Très bien, on va se préparer pour la deuxième série. Réexpliquez-nous et on va reprendre cet exercice.
Alors, on va poser, on va serrer nos deux mains l'une contre l'autre. Les paumes bien collées, face à face. On va rapprocher ces deux mains collées proches de notre poitrine. On lève bien évidemment les coudes et on va appuyer le plus fort possible, le plus longtemps possible, tout en respirant. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on peut appuyer bien sûr les paumes. On se met en position. Et top, c'est parti. Allez, on appuie très fort, très fort, très fort. On respire évidemment. On ne lâche pas, mais on appuie très fort, très fort, très fort. De toutes ses forces, de toutes ses forces. On continue. Voilà pour le premier groupe. On continue pour le deuxième groupe. On continue d'appuyer très fort, très fort, très fort. Il faut véritablement mettre toute son énergie à l'intérieur. C'est appuyer très fort contre les paumes, évidemment. Voilà pour le deuxième groupe. Et on termine avec le troisième groupe. On continue très fort, très fort, très fort. On respire évidemment. On n'est pas en apnée. On respire, mais on appuie très fort également. Et voilà pour le troisième groupe, bravo, bravo, on vient de terminer cet exercice et on va sentir ses pectoraux, ses deltoïdes et les biceps devant les bras qui ont bien travaillé.
Eh bien, on reprend sa respiration, on reprend notre souffle et on vous dit un grand merci une nouvelle fois cette semaine, docteur Jean-Marc Sen. Merci de maintenir nos auditeurs et nos auditrices en forme et on se retrouve très bientôt dans Priorité Santé, merci.
À très vite.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu et Raphaël Lazizi avec nous. Demain, nous allons parler des vertiges, des malaises. À quoi sont-ils dus? De quoi sont-ils le signe? Quelles maladies sont associées à ces sensations qui peuvent être très perturbantes? On se retrouve demain avec vos questions. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.